Bonsoir à vous et bienvenue dans un nouvel épisode spécial de La Nuit des Divas.
La Nuit des Divas. Un lundi sur 4 à 22h30. Sur Radio Campus Paris.
Bonsoir, j'espère que vous passez une bonne soirée et bienvenue dans La Nuit des Divas, l'émission où je présente la génération de grandes chanteuses dans les pays arabes des années 80 à nos jours. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Émilie, je vous accompagne une fois par mois depuis septembre dernier dans cette émission et je suis passionnée par de multiples genres de musique arabe, nord-africaine, maghrébine, etc. Ce soir, c'est un épisode spécial parce qu'on va fêter les 25 ans de Radio Campus Paris et on vous présente pour célébrer ça une invitée très spéciale, donc la chanteuse, musicienne et compositrice Sarah Maison. Pour commencer, peut-être je te laisse te présenter à nos auditeurs.
Oui, bonsoir, merci pour l'invitation déjà.
Avec plaisir.
Donc je m'appelle Sarah Maison, je suis musicienne, autrice, compositrice, interprète et productrice. Et voilà, je fais de la musique depuis quelques années déjà, et voilà, je suis en train d'écrire un album.
Et tu t'inscris, tu dirais, principalement dans quel genre musical ?
Alors moi, à la base, je pense faire de la pop française, à la base de la base, de la chanson française, un peu du rock, et il se trouve que j'ai convoqué il y a quelques années, et on va pouvoir en parler, le côté marocain de mes origines, et que c'est là que j'ai commencé à rentrer dans les sonorités un peu plus orientales. Mais pour moi, si je devais décrire, c'est vraiment de la pop française, parce que voilà.
Bah, je pense que tu es du coup quand même une artiste qui reste dans le champ de l'émission, notamment un peu dans le cadre diasporique des artistes, et ça c'est hyper intéressant, c'est un axe qu'on n'a pas beaucoup creusé dans La Nuit des Divas, mais c'est très chouette de t'avoir pour en parler, et on va essayer de creuser ça. Je pense qu'on va commencer un peu par les questions les plus évidentes, que ce soit par rapport au contenu donc de La Nuit des Divas ou à toi personnellement. Et commençons donc par le titre même de l'émission, donc c'est quoi ton rapport aux divas, qu'est-ce que ça signifie pour toi en fait d'être une diva, ta définition de la chose?
Alors pendant longtemps, je pense qu'elle était un peu erronée parce que je me basais plus sur les divas américaines, anglaises et donc du coup plutôt blanche en fait. On m'a souvent dit que je ressemblais à Cher par exemple en termes de physique, donc je ne sais pas si c'est parce que je suis brune.
Je pense que c'est parce que t'es très grande.
Et que j'ai des pommettes peut-être, ouais. ce qui me va très bien parce que j'adore Cher, hein, qu'on se le dise. Mais donc du coup pour moi la diva c'était vraiment quelque chose de plus quelqu'un de capricieux qui fait des caprices de star, etc. Et quand on me disait fais pas ta diva, je le prenais hyper mal en me disant non mais ça va, j'ai juste demandé le strict minimum, laissez-moi tranquille. Et donc du coup il y avait cette idée là, oui, de la diva un peu comme un terme péjoratif, et souvent d'ailleurs quand on féminise les termes c'est toujours plus ou moins péjoratif et il faut se les réapproprier ces termes là et donc du coup j'avais commencé il y a quelques années à écouter des divas du monde arabe, j'étais aussi allée voir l'exposition à l'Institut du monde arabe où je m'étais dit ah ouais en fait c'est des divas, ces femmes exceptionnelles qui sont des porte-paroles de leur pays et en même temps des femmes incroyables, chanteuses avec des tenues de fou, etc. Et donc ça commençait à grandir dans ma tête de me dire en fait c'est pas péjoratif du tout d'être une diva au même titre qu'on pourrait dire ah ouais c'est un dieu vivant. Donc oui, non, il y a des divas et elles sont incroyables. Et ce qui est rigolo c'est que quand j'ai découvert La Nuit des Divas, justement ton podcast, c'est grâce à ton Instagram où en fait j'ai vu toutes les divas que tu mettais en avant et j'étais ah mais en fait c'est incroyable, en fait c'est pas juste ce qu'on peut croire qui est un terme hyper réducteur de la diva, c'est ceci ou cela. Et en fait, je me suis dit, ouais, il y a un vrai truc. Et donc, c'est depuis ce temps-là que je me suis un peu plus intéressée aux divas arabes, en fait.
Bah, par rapport à ça, c'est quoi ta démarche pour essayer de te réapproprier ce terme assez particulier, quand même?
Alors ma démarche, je pense qu'elle a été inconsciente au tout début parce que quand on regarde mon stylisme que je faisais toute seule à l'époque, puisque maintenant j'ai un styliste, c'était très sequin, très paillette, très djellaba de fête que ma grand-mère me ramenait du Maroc. En fait, j'ai une collection de djellaba assez folle. Et donc à chaque fois, elle me disait, oh, ben voilà, ça te servira pour chanter, etc. Sauf que c'est des trucs qui pèsent hyper lourd, qui tiennent hyper chaud. Et dans mon premier clip qui s'appelle Mouzoul, je les ai toutes sorties. Et donc il y avait plein de djellaba, de caftan, de trucs qui brille, etc. Et pour moi, en fait, c'était un hommage à ma grand-mère et c'était dans la continuité. Mais après, j'avais acheté des robes à sequins dans les magasins de vers le Sacré-Cœur. Il y a tout
Je vois très bien. Tu vois.
Et donc j'avais cette grande robe rouge que je mets souvent, donc j'ai vraiment bien usée, donc elle est assez emblématique de mes shows. Mais donc du coup, il y avait déjà cette envie, sans vraiment dire de diva, une envie de shiner, d'avoir un truc un peu second degré aussi humoristique qui me plaît énormément dans le côté dramatique en fait. Et comme ma musique, elle est, certaines personnes la prennent très premier degré et c'est pas grave, j'accepte aussi. Mais il y a beaucoup d'humour aussi dans ce que je fabrique. Et donc du coup, dans la posture justement de cette diva qui arrive et qui dit je ne peux pas vivre sans toi parce que le monde s'effondre, c'est le drama. Et en fait, ce drama-là, j'étais ah ouais, il faut le faire, faut qu'on le ressente aussi arriver avec, au tout début mes concerts. En fait, je faisais tout sur, je prodais mes trucs un peu de manière très lo-fi et j'appuyais, c'était un sort de karaoké, donc je me suis cherchée pas mal dans mon style. Avant, je m'habillais normal et je débarquais à chanter mes trucs. Puis en fait, je me suis dit, qu'est-ce que ça fait de venir chanter un karaoké de chansons d'amour hyper puissantes, hyper poussées au maximum, presque inquiétantes, habillées en sequins, en faisant des poses lascives. Je trouvais que c'était assez marrant. Donc en fait, dans un premier temps, ça a été ça, le move un petit peu diva. Et plus ça va, donc là, je travaille avec un styliste qui s'appelle Nissim Tretiakov, qui lui, et son rêve, c'était d'habiller des femmes sur scène. Donc du coup, il m'emmène dans des trucs où au début, je faisais des essayages et j'étais genre, non, mais en fait, je suis pas sûre du tout. Et donc c'est là que mon personnage est plus en train de se créer vers le côté diva, de me dire, mais en fait, faut s'amuser. Et oui, on peut être, si le lieu de la scène, c'est le lieu de s'inventer un peu un alter ego. Et donc, je suis un peu dans ça en ce moment. Alors, avant, j'étais dans une quête d'authenticité absolue. Il faut que les gens comprennent qui je suis absolument au quotidien, etc. Puis en fait, plus ça va, plus je me dis, mais amusons-nous. Et donc, ouais, y a un alter ego qui est en train de se mettre en place, qui est assez rigolo.
Mais je comprends tout à fait le truc d'avoir un peu deux facettes, une sur scène et une dans la vraie vie. Dans tous les cas, ce qu'on voit avec les divas de pays arabes, c'est que c'est le cas pour elles. Enfin, je veux dire, si on prend l'exemple de Mokhtar Soum, ok, elle avait toujours sa prestance et sa classe, en fait, parce que c'était vraiment quelqu'un de très classe en dehors de ses concerts, mais enfin, c'était aussi quelqu'un qui discutait normalement, qui n'était pas dans le côté drama tout le temps. Il y a la différence entre les productions artistiques qui relèvent, par exemple, ça peut être un côté très drama dans l'iconographie, dans les paroles, dans la poésie. Mais oui, je pense qu'il y a une grosse différence à faire et c'est là où le terme diva, on peut le coller un peu partout de manière assez misogyne. Enfin, par exemple, il n'y a pas d'équivalent masculin de diva, commençons par là. Et on le colle un peu de manière misogyne, je pense justement. Tu es une diva pas que sur scène, dans la vraie vie aussi. C'est ce que tu disais, voilà, t'es capricieuse, t'en demandes trop, t'en fais trop. Et en fait, je pense que c'est cet impératif qu'on a de dire aux femmes aussi, n'aie pas trop confiance en toi non plus. Genre, dose, tu vois. Et c'est ce que je trouve complexe dans le terme diva et justement que je trouve qui est dû exactement à la chose que tu mentionnais, que la construction qu'on a, du moins en France, des divas, enfin, du terme, elle vient de divas occidentales. Alors que, ouais, on s'intéresse pas, en fait, aux autres formes de performance et aux autres formes, enfin, aux autres figures de chanteuses qui sont radicalement différentes dans les pays arabes, du coup.
Oui, et puis il y a aussi ce truc, quand on est juste chanteuse, alors qu'en fait, il y a des chanteuses qui font des trucs de dingue avec leur voix, qui sont des musiciennes, c'est incroyable, mais c'est la chanteuse. Et ça, c'est extrêmement péjoratif. Enfin, le terme chanteuse, non, mais souvent on voit bon, c'est la chanteuse, quoi. Ouais. Et moi, au début, je me disais non, mais je suis musicienne, j'écris mes chansons, etc. Parce qu'en fait, on me disait elle vient chanter et c'est tout. Mais c'est pas tout, c'est énorme déjà de chanter. En plus, souvent, on s'accompagne à la guitare, même si on fait pas des solos de malade. En fait, c'est essayer de chanter et de jouer de la guitare en même temps.
C'est hyper compliqué.
Et chanter bien et d'exprimer et de voilà. Et je trouve, oui, qu'il y a ce truc aussi de la diva, il faut pas qu'elle prenne trop l'air de la clim, par exemple. Non, parce que j'ai demandé à ce qu'on arrête la clim. Et aussi, en termes de tenue, etc., il y a toujours une idée un peu vulgaire, en mode elle s'est trop montrée, ou je sais pas quoi. Donc en fait, il n'y a pas de juste milieu, soit c'est trop, soit c'est pas assez. Et je trouve que la diva, en fait, la figure de la diva, de plus en plus pour moi, de plus je la découvre, plus je la trouve extrêmement punk, en fait, de dire je suis là, je connais mes atouts, je viens faire le show, je sais ce que je veux dire, et en fait, après, je m'en vais, et je suis une autre personne et c'est ok aussi de faire un petit peu un rêve de paillettes et de partir dans un nuage de fumée, quoi. Je trouve ça assez cool.
Et du coup, c'est comme ça que tu arrives un peu à te te décoller de, on va dire, de la dimension misogyne du terme, on va dire. C'est par l'aspect un peu à la fois créatif et peut-être un peu humoristique, du coup.
Ouais, alors après, pour le coup, j'ai pas encore eu... j'ai eu plein de comportements sexistes à mon égard et des violences, y a pas de problème, hein, mais comme malheureusement beaucoup de femmes. Mais en termes de diva, pour le moment, pas trop.
Okay.
Parce qu'en fait, je pense que c'est parce que je fais pas beaucoup de concerts en ce moment sur parce que je prépare mon album. Mais c'est plus, j'ai plus des encouragements et des gens sur les réseaux sociaux qui me disent « Ah, trop bien, iconique, etc. » Et moi, je trouve
incroyable,
ça drôle, parce que justement, quand tu as un personnage, quand tu es en mode iconique, c'est assez difficile à porter, en tout cas pour moi, parce qu'il y a quand même, il faut assumer d'arriver, de faire 2 mètres et de prendre la place, et donc je m'y attelle et je prends de plus en plus de plaisir. Mais après, quand les gens te disent c'est iconique et tout, toi t'es en pyjama en mode ah ouais, bah je me suis levée à midi, donc en fait il y a un décalage et c'est souvent Instagram vs reality. Mais donc je sais pas, après là en ce moment je fais des petits concerts aussi avec Anorak, un gars avec qui j'avais fait un morceau qui marche pas mal en ce moment qui s'appelle Gang, où c'est de la disco un petit peu parlée, etc. Donc mon personnage est aussi extrêmement voilà, sensuel, avec des voix un petit peu comme ça. Et on a fait quelques concerts et c'est vrai que bah, voilà, là je me suis confrontée vraiment à à des regards en fait d'hommes comme de femmes par ailleurs, surpris, mais c'est qui cette meuf? Enfin, j'avais vraiment l'impression d'être, comme on dit chez moi, une radasse, la meuf qui débarque, qui est habillée en léopard, et en fait on se dit non mais en fait elle est gênante. Et dès que j'ai pris le micro, en fait les gens, ah oui mais en fait c'est elle. Et donc du coup il y a un truc en mode, si c'est au quotidien, ah c'est limite, ah mais s'il y a de la musique et du chant, ça passe. Et je crois que je t'avais raconté, c'était une expérience assez compliquée pour moi, parce que je me suis fait agresser par des mecs pendant que j'étais en train de chanter au milieu de la foule. Et donc là, oui, je me suis sentie extrêmement femme, et justement parce que mon accoutrement c'était une sorte de tenue hyper moulante, je pense pas que ça soit lié à ce que je portais, mais en fait la posture de la femme forte qui est là, qui assume sa tenue, qui chante en plus des chansons suaves et positives au milieu, en étant le centre de l'attention, en fait, il y a certains mecs qui n'ont pas supporté. Et moi, comme je suis dans mon cercle extrêmement déconstruit et dans ma bulle, là, je me suis sentie vraiment femme en me disant, ouais, en fait, t'arrives à éviter dans le quotidien. En plus, voilà, étant une femme assez grande, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui osent pas venir m'embêter. Et aussi parce que je suis plus âgée maintenant, mais on m'embêtait de mes 9 ans à mes 25 ans sans problème. Donc ça, il y a un truc un peu comme ça. Et donc, ouais, ces agressions-là, en fait, j'ai pu les constater et me dire, d'accord, c'est une projection, parce qu'en fait, il y a énormément de choses qui se jouent dans ce que je suis en train de faire, alors que pour moi, je suis juste venue chanter 4 morceaux dans une foule de gens explosés qui buvaient du rosé. Et voilà, et en fait, il y a des décalages un petit peu comme ça. Donc oui, là, je me suis sentie diva en mode... pas accepté, mais ouais, parce que c'était pas une scène aussi. Et je trouve que le rapport d'être de surplomber un public, d'être sur scène, d'avoir son espace, c'est complètement différent que d'être vraiment dans la foule. Donc ouais, donc voilà, oui, là j'ai senti quand même que c'était dur.
Mais tu vois, typiquement là, il y a une, on ressent aussi là le fossé un peu entre les conceptions différentes de ce que c'est d'être une diva, par exemple à un concert, parce que les divas dans les pays arabes, elles sont enfin extrêmement respectées. Au contraire, c'est les femmes qu'on ne touche pas, qu'on respecte, tu vois, on est à genoux devant. Et c'est vrai qu'il y a j'ai jamais eu l'impression, peut-être que je me trompe, mais c'est vraiment de mes propres recherches, même quand on regarde des concerts en live et tout, les gens sont extrêmement respectueux de par la fascination un peu pour la personne. Alors que là, ce que tu racontes, c'est vraiment l'opposé, c'est le dénigrement de la femme. Et c'est vrai que c'est assez fou quand même comme expérience, mais je pense que c'est dû à plein de circonstances. C'est dû aussi au fait d'avoir des publics parfois à grosse majorité blanche, il faut le dire, quand on met des artistes qui viennent chanter des sonorités non occidentales entre guillemets, qui a une posture assez particulière, et aussi au fait, enfin c'est tout un autre sujet, rien à voir avec la nuit des divas, mais le problème de l'alcool dans les soirées, c'est que moi je trouve pas ça normal, tu vois, typiquement pour une artiste de devoir performer face à une team de gars de bourrés et de te retrouver en fait à ouais, super mal vivre ton expérience qui devrait être au contraire une expérience géniale, quoi.
Mmh, oui, alors après, c'est comme c'est des soirées électro, je pense que c'est la base
de ça.
Et bon, moi, je bois plus du tout d'alcool, mais je sais que j'ai pu pas fréquenter ce type de soirée, mais je vois pourquoi les gens, en fait, se mettent dans des états pareils. Et il y a la majorité des gens qui étaient extrêmement respectueux, mais il y a toujours deux, trois, là, c'était trois mecs qui savent pas gérer et qui sont énervés. Et en fait, comme je réponds, bah, ça part en vrille, quoi. Mais oui. Et après, je pense que c'est une question de contexte qui est que là, c'était un truc plus French pop électro sur une péniche. Alors que, ben voilà, quand on voit des divas sur scène avec leurs musiciens, avec tout un décor, tout est là déjà. Et en fait, c'est bon, vous venez au spectacle. Et c'est pas la même chose. Après, il y a des divas, je suis sûre, on les met n'importe où, sacré le spectacle, parce qu'il y a une posture et que je suis encore une baby diva. Mais en tout cas, voilà, je suis plus à l'aise sur scène quand j'ai une scène, parce qu'en fait, les gens, ils écoutent pas, mais en fait, nous, on est là, quoi.
Ouais.
D'être dans une foule comme ça, c'était extrêmement déstabilisant. Mais par ailleurs, j'ai assez vite process le truc. Et en 24 heures, j'étais, non, en fait, c'est une projection qu'on fait sur moi, ça n'a rien à voir avec moi, je n'ai pas à avoir honte, je vais y retourner pour voir comment ça se passe. Et on a refait une à Marseille et ça s'est plutôt bien passé. Enfin, en tout cas, il y a eu des à côté un peu chiants, mais la performance était super et le public était adorable. Et là, je me suis dit, d'accord, en fait. Okay. Et c'est particulier aussi d'avoir un public assez. Parce que voilà, t'en parlais, moi j'ai un public très French pop, enfin, pour ma musique personnelle, pas très. Je sais pas si je suis très écoutée par les Nord-Africains, même si j'aimerais beaucoup. mais voilà, j'avais une scène un petit peu. Indé. Et donc, okay. Du coup, quand je vais chanter avec Anorak, je vois que c'est un truc beaucoup plus, même si c'est pas mainstream, mais c'est un petit peu plus. Et du coup, c'est intéressant de se sortir un petit peu de ces zones. Voilà, enfin, moi, en ce moment, j'en ressens le besoin. J'aimerais chanter un peu devant d'autres types de personnes qui comprennent, et notamment des personnes non blanches qui peuvent comprendre le groove que j'essaie d'apporter parfois, même s'ils le comprennent très bien d'ailleurs, hein, mais
ouais.
C'est pas la même chose. Voilà. Et j'ai déjà entendu des gens dire oui, c'est sympa, mais je suis pas très orientale en écoutant ma musique en live. Donc, du coup, j'étais à écoute. Bah, je pense pas faire de l'oriental. Enfin.
Surtout que ça ne veut rien dire.
Mais ça ne veut rien dire. Et puis, je sais pas, j'ai l'impression que pour eux, dès qu'ils entendent un petit synthérail, on dirait que je fais du folklore et que je suis en train de je sais pas. Donc je pense qu'il y a des ouvertures à faire
et dynamiques.
Et en ce moment, j'essaie justement de trouver peut-être pour le futur des dates où je peux jouer devant des personnes différentes, en fait.
Ouais.
Parce que là, je me suis un peu pas enfermée dans un truc très franco-français, mais voilà, j'aimerais bien en sortir un peu des fois.
Bah, je pense que t'auras l'opportunité. Dans tous les cas, il y a de plus en plus, j'ai l'impression, d'espaces culturels, en tout cas sur Paris, aussi sur Marseille, de ce que je vois, d'espaces culturels qui, justement, programment des artistes comme toi, ou tout simplement, ouais, qui ont des lignes édito, on va dire, qui pourraient vraiment t'intéresser. Donc, j'y crois, je suis sûre que tu parviendras à performer avec le public que tu veux. En parlant du groove que tu évoquais, j'aimerais bien savoir un peu d'où ça vient et qu'est-ce que tu retrouves donc à la fois chez les divas qui t'inspirent, on va dire, dans ton processus de création, mais aussi quelles sont tes influences autres qui font que voilà, après tu mélanges la chose, on va dire, et ça crée ton perso, ta musique.
Bah, à la toute base, ce qui m'a le plus marqué, c'est ce qu'écoutaient mes parents. Donc du coup, il y avait beaucoup de chansons françaises, il y avait beaucoup de chansons ma mère était fan de Oum Kalsoum, de Farid El Atrache, de tout ça. Donc c'était les journées un peu où elle faisait le ménage et elle mettait vraiment genre tout le truc. Donc du coup, il y avait un truc très prenant. Et en fait, quand j'écoutais la musique avec ma mère, c'était très deep. Il y avait par exemple, du Gérard Manset, du Brel, du Barbara, des choses extrêmement mélancoliques et fortes. Et donc voilà, de la musique égyptienne, de la musique gnawa aussi. Et donc du coup, j'étais vraiment aux premières loges d'écouter tout ça. Mon père, lui, avait une discothèque assez hallucinante de plein de trucs de jazz, de bossa nova, de rock progressif. Et donc en fait, naturellement, je prenais des disques un peu au hasard quand c'était l'époque des Discman, en fait, des lecteurs CD. Et quand j'allais au lycée, je prenais un disque au hasard et je me le prenais toute la journée. Donc, des fois, je tombais sur des trucs qui me plaisaient hyper, enfin, grave. Et en fait, ben, des fois, je tombais sur un truc un peu plus obscur. Mais je me disais, j'ai que ça à écouter, donc j'écoutais. Et j'aimais bien, en fait, ce côté un peu aussi de l'adolescence où on est un peu avide de découvertes. Il y a comme une sorte de, c'est comme si notre vie en dépendait. Ça me manque parfois. De dire, ah, mais il faut que je découvre ça, etc. Et donc, du coup, j'ai vraiment, j'en bute toute cet héritage familial. Et par ailleurs, après, j'écoutais du punk aussi, parce que au lycée, j'étais punk.
T'as voilà.
et donc, en fait, voilà, tous ces trucs-là, et je pouvais, en fait, mettre sur une carte un petit peu, et sur une chronologie, un peu tout ce qui s'était fait musicalement, et du coup, je l'ai intégré. Et assez naturellement, après, c'est ressorti dans ma musique. Donc, j'ai commencé à faire de la folk dans les bars de Nice, quand j'étais étudiante au Beaux-Arts de Nice. Et donc, je chantais en anglais, et donc, mes inspirations, c'était toute la folk anglaise. J'étais très fan de Leonard Cohen, par exemple. Et donc voilà, je chantais mes chansons, mes déboires dramatiques. C'était déjà
toujours
très dramatique.
Toujours le côté un peu drama. Ouais.
Oui, oui, oui. Et voilà, et petit à petit, je suis arrivée à Paris. Et là, je me suis dit, mais en fait, il faut que je réussisse à mélanger. Je sais pas, j'avais un prof au Beaux-Arts qui m'avait dit que tout avait été fait sauf nous. Donc en fait, ça m'a tellement marqué. C'est-à-dire ce truc. En fait, il nous disait qu'artistiquement, tout a été fait dans le monde. On était en quelle année, mais tout a été fait. Donc soyez vous-même et faites vraiment vous votre essence, en fait. Et donc du coup ça m'avait marqué et je me suis dit mais attends, c'est quoi mon essence finalement? J'ai mis de côté musicalement, j'avais jamais vraiment, même si j'en écoutais beaucoup de musique nord-africaine, libanaise, moyen-orientale et tout ça, je l'avais jamais intégré à ma musique. J'étais un peu comme dans le déni, en mode non mais moi je suis française, sauf qu'en fait c'était toujours d'ailleurs malheureusement via le regard raciste qu'on me rappelait, ouais, à mon origine, alors que bon, moi je suis née en France et que je comprenais pas, tu veux. Donc et puis voilà, je suis née en France et j'avais mes grands-parents qui habitaient en France. Donc en fait, j'avais le côté marocain que je côtoyais régulièrement. Mais pour moi, c'était pas, il fallait pas être soit l'un, soit l'autre, etc. Et en fait, c'est comme si via ce racisme-là, on me parlait de quelque chose que j'étais sans être. Et donc c'est là que ma quête d'identité a commencé à se poser. En fait, je me suis dit, ben oui, mais pourquoi c'est des gens qui n'ont rien à voir avec moi qui me traitent de sale arabe, quoi. Enfin, qu'est-ce que ça apporte, en fait? Donc ouais, moi j'ai commencé à me construire sur en fait le côté, ben il faut que j'assume en fait que je suis arabe, en fait, enfin je suis pas arabe, je suis amazigh, mais on me perçoit comme ça, c'est bien mignon, mais en fait vas-y, va visiter ça un petit peu plus, quoi, parce que c'est vrai que tu es amazigh, je suis franco-amazigh. Et donc du coup ça a été musicalement que je me suis dit comment je peux intégrer ce que j'imagine être marocain, ou en tout cas un imaginaire marocain. Et en fait j'ai commencé à me dire, ah c'est quoi les instruments? Donc du coup j'ai samplé des derbouka, ensuite je me suis dit, ah en fait tatata, puis en fait je me rendais compte que j'adorais le raï, donc je me suis dit attends, mais en fait les synthés de raï, c'est moi, ça me rend dingue, les
ouais, vraiment.
Les cordes égyptiennes, les et là je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? Donc du coup j'ai commencé à faire un truc hyper en fait hybride et protéiforme. Bah voilà, vous voyez que ça en fait quand vous me voyez, et moi en fait j'adore ça en plus, cette musique là. Bah vas-y, on y va. Et donc c'est là que j'avais fait Western Arabisant, qui était pour moi vraiment un mélange entre la musique un peu de western, parce que j'adore la country aussi, et qu'est-ce que ça fait de mélanger les deux. Et donc j'ai créé cette espèce d'ovni, parce que Western Arabisant ça veut pas dire grand chose,
ouais.
Et donc en fait voilà, je l'ai enregistré et ça a été un succès. Donc je me suis dit ah c'est intéressant, mais avec le recul je trouve que c'est quand même mon Western Arabisant, même s'il est super, il est un peu orientaliste sur les bords. Après on est trop
c'est des phases
qu'on déconstruit,
c'est très compliqué. C'est moi je trouve ça très compliqué pour les femmes nord-africaines, maghrébines, arabes, de se construire réellement. Alors artistiquement j'imagine pas la charge que c'est. En plus déjà je trouve ça très complexe en tant que juste individu, être humain. Alors en plus quand tu veux travailler dans le milieu de la musique, travailler en plus dans le milieu de la pop française, j'imagine pas ce que c'est, parce que de mon propre vécu, c'est aussi beaucoup de... tu es toujours altérisé par l'autre. Donc, tu es toujours l'autre. Mais c'est un sentiment, c'est très violent, en fait, d'être altérisé par l'autre, sans même comprendre pourquoi, d'où, surtout quand ça arrive à un âge assez jeune. Et donc, en fait, on se construit par... par ce que tu dis, par le biais de l'autre.
Découvres via un regard en plus extrêmement violent de quelqu'un. Et donc, moi, c'était à 6 ans qu'on me traitait de Sahara, tu vois. Du coup, t'intègres ce truc-là. Et c'est vrai que moi, j'en ai beaucoup parlé avec ma mère. Et ma mère, elle m'a dit, mais en fait, dis fuck à tout. En fait, t'es ce que t'es. Et arrête de t'excuser. Et on en parlait d'ailleurs au téléphone, ou des fois, je t'avais dit, moi, des fois, je me sens pas légitime de prendre la parole ou d'être qui je suis. Et tu m'as dit, j'en ai marre. C'est toujours les mêmes qui se remettent en question.
C'est ça. En fait, ce qui est dingue, c'est que soit on est réduit à la femme arabe, alors que ça se trouve, on n'est pas arabe, on est amazigh, il y a une multitude d'identités possibles. Ça se trouve, on est kabyle, ça se trouve, on est copte, c'est des identités qui sont plurielles, c'est des régions qui sont extrêmement riches, il y a beaucoup d'ethnies différentes, mais déjà, on nous colle l'image de femme arabe ou femme maghrébine. C'est une image héritée donc d'iconographie coloniale. Et en plus de ça, après, nous, on galère quand on décide de se remettre en contact avec ces cultures desquelles on est originaire, on galère à se sentir légitime parce que on parle pas forcément la langue, mais c'est des questions hyper complexes de les parents ou l'entourage globalement l'ont pas transmis, et donc on peut pas créer ce qu'on veut, on peut pas écrire sur ce qu'on veut, et en fait on se retrouve à traverser 3000 questions hyper compliquées, surtout quand on est seul à les traverser. Et il y a des gens face à nous qui en ont rien à foutre, en fait. Tu vois, qui se sentent hyper légitimes de tout faire. Enfin, on le voit avec les soirées que des blancs organisent, genre disco oriental, Et eux, je pense que typiquement, ils ne se posent pas la question s'ils sont légitimes ou pas.
C'est de l'appréciation culturelle, voilà. De dire on va mettre en avant, mais j'ai vu le poste qui nous ne danserons pas sur vos musiques coloniales. Et c'est ça, c'est genre, à la rigueur, pourquoi pas, mais de mettre des chameaux, des palmiers, des trucs en visuel, en fait, c'est extrêmement, extrêmement choquant. Et le truc, c'est ça, c'est que même dans la musique, dans le côté industrie de la musique, moi, on m'a déjà dit, mais en fait, force le trait, en fait, va plus loin. Et moi, j'ai pas envie de faire.
C'est-à-dire,
on va s'aimer. Allez. Pourquoi pas? Juste parce qu'en fait, il faut qu'on comprenne que c'est. Mais ça, c'est pas que pour les personnes racisées. D'ailleurs, c'est en général pour vendre un truc, c'est du pur capitalisme et du marketing. Il faut que ce soit compréhensible par la majorité. Et moi, je sais que ça m'a extrêmement fragilisée parce que j'en parlais beaucoup avec mes éditeurs d'essayer. Où ils me disaient, mais en fait, tu veux faire quel type de musique? Est-ce que tu veux faire ceci, cela? Nous, on t'accompagne, y a pas de problème. Mais en fait, faut que tu choisis parce que c'est plus facile à comprendre pour les gens. Tu comprends? Et moi, je comprends, oui. Sauf qu'en fait, moi, ça m'a brisée en fait de me dire. Donc, il faut que je rentre dans un truc, machin, nanana. Parce qu'on m'a laissé croire que j'avais une place très populaire, etc. Et en fait, sur le chemin, j'ai dit, mais en fait, j'ai pas envie d'y aller. J'ai pas envie de faire des compromis musicaux pour, à la rigueur, sur un side project, y a aucun problème. Mais quand c'est moi qui écris, j'ai pas envie, en fait, d'aller me mettre dans ma petite boîte. Et même si c'est ça la réalité, bah, tant pis, en fait, je ferai ma musique et il y aura quelques gens. Et ça a dû être un gros deuil parce que moi, je suis arrivée un peu à Paris, je suis venue de mon sud en me disant, j'ai galéré aux Beaux-Arts, je vais leur montrer, je vais être quelqu'un. J'ai eu la chance avec Western Arabizan qui est passé sur France Inter, etc. Donc sur le coup, je me suis dit, ça y est, j'ai réussi. Ma première victoire. Et je pense que c'était une manière de voir que c'était possible sans que je m'en rende compte. Et voilà, et je continue. Et la vie est pleine de mystères et de rebondissements, donc c'est rigolo. Mais j'ai pas envie d'aller là où on m'attend nécessairement. Et c'est bête, mais je pense que quand on est maghrébine, il y a pas trop de place.
C'est quand même assez dingue parce que cette manière qu'il y a de d'essentialiser, de catégoriser, c'est-à-dire que tu dois coller à l'image, à ce qu'on attend de toi. Et c'est pour ça que, pour moi, typiquement, les soirées, donc c'est un communiqué pour les auditeurs, auditrices, que je vous invite vraiment à lire. C'est un communiqué qui a été rédigé donc par des personnes anonymes pour, je crois que c'est un truc de militantisme associatif, qui s'appelle Entaroj, qui est une expression, je crois, qu'on emploie au Maroc pour un peu remettre en question, ça veut dire es-tu un homme ? Et c'est pour remettre en question les comportements des hommes, donc pour mettre face en fait à ces comportements déplacés. Et donc ce communiqué s'appelle on ne dansera pas, je crois, sur votre fantasme colonial, quelque chose comme ça. Et c'est un communiqué qui est parti justement de deux soirées qui s'appellent Disco Oriental et Habibi Love. Déjà, est-ce qu'on peut parler des noms absolument ridicules, qui étaient accompagnés de visuels à mourir de rire, mais dans le mauvais sens, comme tu disais, chameau, pyramide, palmier pour Disco Oriental et Habibi Love, genre une typographie toute pétée.
Les typos toujours un petit peu
arabisante, tu sais pas vraiment ce que c'est, en même temps on dirait un peu genre des lettres indiennes, mais en même temps l'Orient c'est quoi, l'Orient,
oui, c'est ailleurs.
Ça va, exactement, c'est là-bas là, loin, le sud. C'est catastrophique. Et c'est un truc que j'invite à lire parce que ça remet en question toutes les notions d'orientalisme et d'appropriation culturelle. Parce que moi, ces soirées-là, du peu que j'ai trouvé personnellement, c'était des personnes genre françaises ou espagnoles. Donc des blancs, européens, caucasiens, on appelle ça comme on veut. Mais en fait, le problème, c'est que c'est destiné à des publics blancs. Et je connais une personne qui est allée parce qu'elle savait même pas que c'était organisé par des blancs et qui m'a dit qu'il n'y avait que des blancs à Disco Oriental. Il n'y avait que des blancs. Et elle me dit que ça se sentait que la musique avait été choisie. Donc les DJ mixaient des sons et des sonorités pour des blancs. Donc en fait, c'est pas de l'appréciation culturelle. Parce que si c'est de l'appréciation culturelle, eh ben, tu invites des artistes qui sont originaires de ces pays-là, sachant qu'on a des diasporas immenses en France, d'autant plus à Paris. On n'a pas l'excuse de « Ah, j'ai pas trouvé et tout ». On a des tonnes de DJ, des tonnes de productrices, producteurs, chanteurs, chanteuses, etc. En tant que femme maghrébine ou nord-africaine, voilà, tu vas galérer à essayer de te faire une place dans cette industrie où il faut que tu te soumettes à une seule image. Mais pendant ce temps-là, tu as des personnes blanches qui jouissent de tous leurs privilèges et qui peuvent faire des soirées hyper essentialisantes sans répercussion, en fait. Et c'est là où il y a vraiment quelque chose, pour moi, à démanteler entièrement, parce que c'est pas normal que des artistes comme toi aient rencontrent des difficultés comme celle-ci. Enfin, je suis désolée, ta musique, moi, je la trouve tout à fait compréhensible. C'est de la pop française, de la chanson française, influencée par le funk, un peu de jazz, je trouve, et par certaines sonorités nord-africaines, notamment le synthé du rail, comme tu disais. Je trouve ça tout à fait compréhensible. Faut pas prendre les auditeurs pour des idiots. Tu vois, tu fais pas non plus un truc hyper techno, expérimental, hardcore, je sais pas quoi, enfin...
Non, je fais des chansons, c'est pour ça quand on me demande mon style, je dis en général c'est chanson française, sauf que non, la chanson française c'est Renan Luce. Donc en fait, et c'était Rachida qui disait ça, quand on lui demandait quel type de musique vous faites, il dit mais je fais de la chanson française. Et c'est...
Mais lui, on l'a réduit à Yoroy.
Ben c'est ça.
On lui a dit, toi c'est ça, tu fais de la chanson arabe.
Un, deux, trois soleils, et puis voilà, sauf qu'en fait lui il disait, mais non, je fais même ces choses les plus orientales, entre guillemets, orientalisé, pour lui c'était de la musique de France en fait, parce qu'il est en France, qu'il est lyonnais et qu'en fait je fais ça, sauf que c'est compliqué.
Ouais, totalement.
On est dans le world. Je fais de la world.
Ah, justement, le communiqué évoque les termes de musique du monde.
Oui, de l'autre monde. En fait, c'est ça. C'est que c'est extrêmement Europe-centré et que voilà. Et je pense qu'il y a plein de gens qui voient pas le problème. Et c'est pour ça que c'est important qu'ils se renseignent en fait, parce que nous, on est un petit peu fatigués. Et c'est vrai que de devoir se remettre en question. À chaque truc que je fais, je me dis, ah ouais, mais en fait, là, j'ai rencontré quelqu'un récemment qui m'a dit, mais en fait, on dirait que t'as peur d'aller trop dans ton truc arabe, vas-y, en fait. Et
j'étais genre. Mais ça veut dire quoi?
Non, mais après, ça, c'était plutôt positif dans le sens, vas-y à fond, en fait, d'être, soit qui tu veux être.
Oui.
Après, c'est dans l'autre, c'était une personne marocaine, mais. C'est justement ce truc-là de se dire, en fait, soit c'est pas assez, soit c'est trop, qu'est-ce que je fais? Et en fait, elle m'a dit, mais en fait, tu t'en fous, t'as tous les droits, en fait. Elle m'a plus ouvert la porte en me disant, vas-y, mais en fait, amuse-toi. Et c'est vrai que bon, on est dans une ère où moi, par exemple, je fais extrêmement attention à tout ce que je manipule. Mais il y a un jour où je vais tout ouvrir et on verra bien.
Mais oui. Je pense qu'il faut s'ouvrir des portes et il faut arrêter de réduire à de simples critères assez ridicules. Mais retournons à tes influences, on va dire, musique. On va écouter donc la chanson Bahlam Maak, qui veut dire je rêve à tes côtés, de Najat El Sorir, qui a un côté très éthéré que j'adore, très onirique, et donc pour illustrer un peu une part de tes influences musicales. Bahlam Maak, Bissefin, Oubmin, Tiressin, Winbahar.
ciotti u amani.
Bahlam Maïk de Najat El Sorir, qui est un morceau que tu as sélectionné donc pour illustrer une part de tes influences musicales. Et tu voudrais donc qu'on écoute
Al-Masrin Longa 79.
Donc on vient d'écouter le morceau Almosriin Longa 79. Je le dis en français.
79, je l'ai dit en français tout à l'heure.
Qui est un groupe, je crois, de funk égyptien des années 70.
Ouais, et un des leaders, en fait, a arrangé des chansons pour Najat El-Savigira, justement.
Ah, je savais pas.
Et Anna Bachak Elbar, ça a été produit par ce fameux Annie, j'ai oublié son nom, H-A-N-Y. Et donc, du coup, je ne savais pas, j'avais pas du tout fait le lien, moi, parce que du coup, j'ai un peu découvert par-ci, par-là. Et en fait, je crois que c'est hier.
Incroyable.
Où j'ai compris qu'il y avait un lien entre eux et ce groupe. Bah, je l'adore complètement. Enfin, le disque est exceptionnel.
Et c'est quoi comme son, comme instrument qui toi te...
Alors moi, c'est tout leur groove, c'est tous les petits synthés, c'est tous les... j'ai hésité avec une autre chanson dont j'ai oublié le nom. Mais je sais pas, en fait, c'est toute la vibe et la liberté et le côté hyper 70s, en fait, de la proposition qui me plaît trop, quoi. Et là, le côté... tu vois,
en fait,
c'est juste... Justement, si t'écoutes, c'est un peu, pour moi, c'est hyper subtil. Tu sens que c'est égyptien et en même temps, c'est pas genre exagéré. Donc, du coup, c'est ça que je trouvais beau et je crois que c'est l'idée aussi à l'époque, c'est de comment moderniser en fait la musique égyptienne. Et je trouve qu'ils le font hyper bien avec des gammes hyper belles et tout ça. Et c'est trop beau, quoi.
Ouais, mais c'était un gros shift les époques 70, la période années 80 aussi en Égypte, justement parce que c'était l'ouverture à d'autres genres musicaux, on va dire. Mais bon. On va rentrer un peu dans le côté très fun. Est-ce que un peu pour nous donner une idée de comment ces influences-là se retranscrivent dans ta musique, tu nous performerais pas un petit morceau ?
Mais avec plaisir, et je veux bien vous performer Soleil, qui est le titre éponyme de mon dernier EP, qui était sorti en 2021 et qui est une chanson que j'aime beaucoup chanter.
C'est vrai qu'au fond on est pareil à des étoiles, à des soleils, à des visions inhabituelles. Quand il fait jour et nuit en parallèle, c'est vrai qu'au fond on est pareil à des météorites au ciel. Tu es trop loin pour que j'appelle et trop près pour une étincelle.
Bravo, wouh! De beaucoup d'applaudissements, s'il vous plaît. On n'est que trois dans le studio, mais applaudissements à fond.
Merci, merci.
C'était merveilleux, bravo.
Merci beaucoup.
Waouh! Ça se voit que t'es vraiment dans ta bulle quand tu chantes.
Ah oui, oui.
C'est très beau à voir, honnêtement. Enfin, bon, là, c'est la radio, donc les gens ne verront pas. Mais j'invite les auditeurs, auditrices à te voir en live et à regarder tes clips et tout, parce que c'est vraiment très beau de te voir performer. Je suis très contente d'avoir cette opportunité-là. Il y a des choses à relever. Là, il y a des choses à relever. Tu m'as tendu des jolies perches. Ça s'entend, l'influence, les instruments qui viennent déchirer le cœur. Tu vois ce que je veux dire? Le truc, au-delà du fait que ce soit dramatique, c'est que ça monte en puissance à un point en fait où c'est hyper prenant, c'est hyper intense et ouais, ça vient genre vraiment déchirer le cœur, déchirer l'âme. Moi, c'est ce que j'adore et peut-être que tu peux nous en dire un peu plus.
Depuis mes débuts, vraiment depuis que je fais de la musique avec des synthétiseurs, etc., j'ai constaté chez moi une tendance au crescendo qui est que tous mes morceaux commencent un petit peu, puis en fait je monte et puis ça part en justement harakiri, un petit peu brisage de cœur et pour essayer d'aller toucher vraiment le truc qui fait du bien, un truc un petit peu genre ça fait mal mais ça fait du bien, et moi c'est ce que j'aime dans la musique. Et donc oui, clairement dans ce morceau là il y a vraiment différents paliers qui évoluent, et puis t'as différentes sonorités. Il y a aussi l'espèce de tambour qu'on entend, c'est un ocean drum que Anissa, ma derbookiste de l'époque, a joué, et en fait il y a un truc, on a vraiment sur ce morceau là voulu créer un univers hyper genre intense, et puis en fait l'apothéose arrive avec les violons qui ont été faits par Eddie Ben Salem, mon collaborateur de l'époque, et ouais, il y a un truc, c'est extrêmement voulu en fait. Ouais. C'est comment d'un seul coup t'as des cordes qui arrivent, t'as un drame, j'adore les orgues en fait, ça je pense c'est mon côté rock progressif justement, où t'as souvent dans la musique beaucoup d'orgues plaquées, etc., et donc en fait t'as tout ce décorum et en fait tu sais plus où t'es, et le côté électronique que t'entends aussi derrière dans ce morceau là et c'est vrai que c'est une chanson qui est extrêmement, qui touche les gens en fait. La dernière fois, il y a une demoiselle qui a pleuré en concert. Après, je suis allée la voir et elle m'a dit mais en fait, mais c'est trop. Je lui dis je sais, mais bon, tout le monde ne pleure pas, ceci dit, mais je pense que les personnes les plus sensibles sont touchées parce qu'il y a un truc un peu magique dans cette chanson aussi, parce que quand je l'ai faite, ça m'est venu vraiment d'un coup, il y a eu l'inspiration, m'a visité. J'aime beaucoup ce morceau.
C'est vraiment un magnifique morceau, bravo à toi. Et ouais, je pense que c'est juste que ça atteint tellement un degré d'intensité que ça en devient presque cathartique. Enfin, typiquement, je sais que c'est le genre de morceau que je pourrais mettre dans une de mes playlists pour chialer, quoi. Enfin,
oui.
je comprends la personne.
Je vous encourage
qui
à le faire.
Pleurer à ton concert, j'aurais pu l'être. Mais il y a aussi un truc qui est très très beau, c'est sur le plan des paroles. Donc de l'écriture, l'aspect un peu abstrait et très très poétique. D'où ça vient? Parce que c'est quelque chose, typiquement, la poésie, ça revient dans pratiquement tous les épisodes de La Nuit des Divas, parce que c'est un héritage immense des musiques classiques arabes, notamment des musiques classiques entre l'Égypte, la Syrie et le Liban. Et oui, en fait, typiquement, toutes les divas, elles chantaient pour la plupart des poèmes écrits par des poètes très connus de pays arabes. Mais je sais pas si ça vient de là, si ça vient de poètes autres, de poétesses, je sais pas.
Alors moi, je pense qu'il y a une grande influence, c'est Léo Ferré, parce que je trouve qu'il a des textes, notamment sur l'album L'Espoir, qui sont vraiment genre hallucinants, et j'ai beaucoup, beaucoup écouté ce disque-là, et c'est vrai qu'en fait, il y a une liberté de assez folle qui m'a beaucoup plu. Je pense aussi qu'il y a je suis un peu obsédée depuis mes études d'art, c'était un peu d'ailleurs mon sujet de mémoire, etc., mais en fait les langages codés et les comment dire quelque chose sans le dire, tu vois, en fait il y a un truc comme ça, et récemment c'est assez fou, j'écrivais sur ça en me disant mais pourquoi je veux absolument, enfin c'est se montrer et se cacher en même temps, d'où ça vient, etc., et en fait je pense que ça vient de la langue amazigh aussi, tu vois, qui sont des... Parce qu'en fait, quand j'étais au Beaux-Arts, je faisais beaucoup de symboles, de formes, etc. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, j'ai essayé d'écrire Tamazir, alors que, en fait, je sais pas le faire. Et donc, du coup, c'est ce côté de... Le signe m'a toujours énormément obsédée. Donc, au Beaux-Arts, quand je faisais des formes, je faisais des objets qui étaient utiles, mais inutilisables, que j'appelais les objets non communicants, alors que c'était des drapeaux, c'était des porte-voix, c'était des trucs un peu pour se monter dessus, etc. Et en fait, ah non, on n'y touche pas. Donc, il y avait toujours un truc un peu langage codé, mais dont moi-même, je n'avais pas envie d'avoir la pierre de Rosette ou la solution, parce que c'est pas ça ce qui m'intéressait, en fait. C'est assez, voilà. Et donc, dans mes paroles, il y a ce truc-là j'ai d'autres morceaux là que je suis en train de composer où j'essaye justement d'être très premier degré et très frontal, et ça m'arrive de l'être, notamment dans L'été, qui est vraiment une chanson la plus simple, que c'était un peu un exercice de style. Je me suis dit, il faut que je fasse un tube de l'été. Bon, ça ne l'a pas été, c'est pas grave, mais.
Pour moi, ça l'est, hein.
Oui,
il est dans ma playlist d'été.
Bon, tant mieux. mais voilà, genre d'avoir des trucs très premier degré par moment, et justement d'essayer de parler d'émotions et de sensations. Et quand j'étais au Beaux-Arts, j'ai vraiment, vraiment galéré. J'ai redoublé deux fois, ça a été hyper violent pour moi. On ne me comprenait pas du tout, parce qu'en fait, je voulais pas être comprise. Donc c'était. Okay. Par contre, j'ai tenu jusqu'au bout. J'aurais pu avoir les félicitations pour avoir tenu jusqu'au bout, de pas avoir flanché, etc. Et en fait, voilà, c'est en sortant des Beaux-Arts, je me suis dit, mais en fait, c'est dans la musique que je peux trouver ça. Genre, quel autre moyen d'expression qu'un endroit où tu peux faire une mélodie et où les gens, ils vont pas dire pourquoi t'as fait cette mélodie là, tu vois.
Explique-moi la composition.
Genre, et voilà. Et en fait, cette formation des Beaux-Arts, ça m'a rendue très anxieuse, parce que maintenant, genre, chaque geste, chaque truc que je fais, je sais pourquoi je le fais, donc c'est plutôt bien et en même temps mal. Des fois, on en perd la joie de faire des choses, mais c'est quand même positif. J'essaie de le voir comme ça. Et donc voilà. Ensuite, tu te dis, mais je peux prendre juste trois accords et dire exactement ce que je veux. Je peux le dire en mode juste, voilà, il fait chaud et on a soif. Et en même temps, je peux dire, la chaleur accablante de mon amour pour toi. Je sais pas, et c'est ça que je. Il y a une liberté et le côté un petit peu codé, je pense que ça vient de là. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup, enfin, qui est une sorte de protection aussi, mm-hmm. de dire sans dire, en fait. Ça, c'est vraiment mon mojo.
Dire sans dire, ça, c'est quelque chose que j'adore. Mm. Justement, en plus, je trouve que ça permet de laisser place aux auditeurs, auditrices, d'avoir sa propre imagination, d'interpréter comme la personne veut interpréter. Parce que tu as justement ce qui est à peu près dit, mais après, donc, tu laisses le relais aux émotions et à l'interprétation. Mmh. Et ça, je trouve ça très beau. Moi, j'aime beaucoup, justement, ne pas dire beaucoup, mais ressentir beaucoup. Tu vois, c'est. Et ça rentre totalement. Donc, je crois que c'est un discours. Oui, c'est un discours qui a été retranscrit et que je lisais pendant que je préparais cette interview. Et je me suis dit qu'il fallait absolument que je t'en parle, que j'en parle, parce qu'en fait, ça rentre parfaitement dans ta musique. Je trouve que ce jeu sur un peu sur l'abstraction, on va dire, sur l'abstrait, sur le poétique, sur le non-dit, ça relève un peu, tu vois, du je ne sais quoi qu'on retrouve chez certains artistes, et typiquement, dont certains artistes que tu as mis dans la playlist de l'épisode. Je n'ai aucune envie d'écorcher son nom, mais c'est
Kourosh Yagmei.
Exactement.
Ouais, ouais, ouais.
Je trouve que dans sa musique,
c'est exceptionnel. J'ai écouté,
ouais, ouais. Et il y avait ce je ne sais quoi que tu vois, tu ne sais pas décrire. Et donc, le discours dont je parle, c'est un discours de Garcia Lorca. C'est, alors, je l'ai en face de moi. C'est « Jeux et théories du Duende ». Et en gros, si j'ai bien compris, c'est une tentative qu'il a eue d'expliquer la notion d'authenticité en musique. Et c'est une notion qui est hyper complexe, parce que très vite, quand on parle d'authenticité, on peut tomber dans des stéréotypes, notamment dans des stéréotypes raciaux. Donc ça va être quoi l'authenticité maghrébine, ça va être quoi, lui, c'est un auteur espagnol, donc, et il en parle beaucoup, et il y a un extrait où je me suis dit... Alors, c'est justement, il prend exemple sur les théories, sa théorie du duende, qui est un mot qu'il n'explique même pas, tu vois. Et il prend exemple sur les musiques arabes, et il dit, dans toutes les musiques arabes, danse, chanson et élégie, l'arrivée du duende est saluée d'énergique, Allah, Allah, mon Dieu, si proche du olé. Donc ça, tu vois, ça résonne typiquement avec le public de Domo Kalsoum, la trance, le torb, des corridas que personne ne sait s'il s'agit de la même chose, et dans tous les chants du sud de l'Espagne, l'apparition du duende est suivie de cris sincères, viva Dios, Dios soit loué, cris profonds, humains, tendre cri d'une communication avec Dieu par le biais des cinq sens, grâce au duende qui agite la voix et le corps, évasion réelle et poétique de ce monde.
Je pense que c'est une forme de spiritualité, en fait, qui est un truc où, en fait, ton corps, quand tu es hyper connecté à ce qui est en train de se passer devant toi, et que ça te parle surtout, oui, il y a ce truc de olé ou Allah, et oui, c'est vrai, mais c'est assez dramatique, enfin, pas dramatique, mais c'est hallucinant, en fait, dans le public de Om Kalsoum qui tombe dans les pommes, des gens qui sont là, genre, mais je peux mourir maintenant, parce qu'en fait, voilà, et de la mettre au même rang que Dieu, le tout puissant, enfin, c'est un truc de fou. Et je pense que, ouais, c'est ce truc aussi de la boucle et de la transe. Et ouais, ça me parle. En tant que, alors je sais pas, en tant que musicienne, j'ai jamais encore fait tomber les gens dans les pommes, hein, mais, mais en tant que, en tant qu'auditrice, oui, oui, clairement, en fait, il y a ce truc, ouais, le fameux duende, je pense que c'est un peu ce truc, ce mojo-là qui fait que je peux pas expliquer ce qui se passe et qui te saisit et qui est entre l'esprit et le corps, en fait, parce que je pense qu'il a, c'est un entre-deux, parce que, ben, tu décris ce qui se passe concrètement et en même temps, c'est, tu pars dans les astres, quoi.
Ouais, mais c'est dingue. Et justement, c'était l'intensité de ta musique qui m'a fait penser à ça et aussi le langage, du coup, poétique, codé. Puisque tu évoquais l'écriture, Amazir, est-ce que la musique, c'est, ça peut être un moyen pour toi de revenir vers tes origines marocaines, Amazir?
Oui, et plus j'avance dans ce parcours-là, d'ailleurs, plus je récupère des informations qui sont qu'apparemment mon grand-père, donc le père de ma grand-mère, était un musicien qui allait, itinérant, et tu sais, c'est les musiciens qui improvisaient en fait sur ce qui se passait, etc. Donc apparemment, genre, grand don d'improvisation, ma grand-mère aussi, et moi aussi, je peux très facilement improviser, donc en fait, je pense qu'il y a un truc un peu filial, en tout cas, ça me fait plaisir de le voir comme ça. Donc, c'est vraiment via entre le moment où je faisais de la folk qui était pas du tout empreinte de ma culture et de mon identité et que j'ai switché dans ce mélange justement hyper simple au début qui était vraiment du sample en fait où j'avais samplé Yaraya justement de Rachita, j'avais pris le début et j'avais fait fabriqué par dessus, c'était extrêmement expérimental et en même temps c'était de la pop et je chantais ces chansons telles qu'elles étaient comme ça, voilà. Après, j'ai eu une volonté de faire ça studio et de justement un peu cinématographique, etc. Mais oui, il y a clairement une quête d'identité dans mon travail aujourd'hui, quoi. Okay. De justement s'autoriser, de dire en fait qu'est-ce que c'est, comment se réapproprier, parce qu'on est pas mal à se réapproprier aussi des termes qui ont été difficiles à entendre ou qui sont stigmatisants. Par exemple, je pense à beurette révoltée, par exemple. Ouais. Genre, qu'est-ce que c'est de se reprendre un mot qu'on s'est pris en insulte et de dire, bah en fait, oui, je suis pas morte, et en fait, bah ouais, d'accord, vous voulez me traiter comme ça, je m'appelle déjà comme ça, donc en fait, c'est bon, quoi. Et donc, ouais, je sais pas, il y a eu cette obsession à un moment de la musique. Nord-africaine et moyen-orientale où je me suis dit waouh, c'est trop beau et je me suis reconnue notamment par exemple dans Majida El Roumi que j'adore, dans cette chanson d'ailleurs que j'avais mise dans la playlist qui s'appelle
Motahak Be'albi.
Ouais, c'est tellement beau et ça c'est un des premiers trucs avant que je découvre vraiment tout le reste, les violons, le côté hyper synthétique en fait m'a rappelé toute la musique que j'aime, Johnny. Et puis même qui me fait penser à des productions un peu japonaises type Osono ou des choses comme ça. Et donc voilà, en fait il y a un moment tout s'est remis, comme tout à l'heure je parlais de cartes un petit peu et de temporalité, et puis d'un seul coup on se dit ah mais tiens, ça c'est à côté de ça et ça c'est à côté de ça, ça s'aligne, et après c'est, tu sais même plus d'où ça vient, et puis quand tu fais un synthé, ben en fait c'est une évidence parce que ça te fait penser à ça, et c'est pas genre attends il faut que je fasse un truc en mode Majida El Roumi, comment je fais, et en fait c'est voilà, c'est comme t'es une éponge et après bah tu ressors ce que t'avais,
ça se transmet.
Ouais, mais en tout cas, oui, c'était vraiment, je pense, thérapeutique aussi d'intégrer des sonorités arabes et orientales, plus globalement, dans ma musique, quoi.
Et est-ce que pour toi, il y a un morceau que tu as composé qui illustre un petit peu, peut-être, une phase de, justement, cette construction, cette phase de retour, d'apprentissage musical?
Je pense que tout mon premier EP, c'était vraiment ça. C'était du bidouillage, fabrication. Je l'avais co-réalisé avec Eddie Ben Salem, justement. Et on a fait ça vraiment, on a fait ça très bien, mais on n'avait pas de métronome. Donc, tout est joué un petit peu comme ça. On s'est vraiment amusé à refaire les trucs de Derbouka à deux doigts sur un synthé. Alors que, par exemple, sur Soleil, il y a des vrais Derbouka qui ont été joués, etc. Donc, oui, si t'écoutes mon premier EP, tu vois un petit peu la direction que ça prend. Et j'ai beaucoup de tendresse pour ce disque parce que, parfois, tu sais, quand tu avances, tu dis non, mais en fait, purée, ce disque, qu'est-ce que j'ai fait? Et récemment, je l'ai réécouté, je me suis dit, franchement, c'est vraiment bien, parce qu'en fait, c'est vraiment là où j'en étais à ce moment-là. Et tu sens, voilà, il y a Western Arabisan, du coup, qui est mon morceau, qui continue toujours aussi de tourner depuis 2017, sans que je fasse rien. Donc, je pense qu'il plaît aux gens. Et donc, ça, c'est vraiment le début, un petit peu, de te dire, OK, comment tu mélanges deux univers? Et c'est de la pop, en fait. C'est de la vraiment pop 60s. que j'adore d'ailleurs, mais ouais, faut écouter mon premier EP, Sarah Maison, éponyme, si tu veux voir okay. un peu les fils, bah, on voit tout.
À nos auditeurs, auditrices, on vous invite à écouter cet EP-là, donc pour un peu avoir une idée. Je trouve ça beau quand même que tes EP puissent illustrer un peu les étapes dans le temps que tu traverses, que ce soit dans la musique, personnellement, intimement, je trouve ça hyper intéressant. Mmh. Est-ce que tu voudrais nous performer un morceau en lien avec bah, toutes ces choses qu'on vient d'évoquer?
Alors, je serais d'avis de vous faire... j'hésite entre deux. Du coup, je pense qu'on va aller sur l'été version rail.
L'été version rail. Qui je est, l'ai jamais entendu.
Et oui, et c'est une version qu'a justement m'a fait mon ami Eddie Ben Salem. Un jour, je lui ai dit, attends, parce que la chanson originale est quand même bien empreinte de rail. Et je lui ai dit, mais toi qui es algérien, vas-y, à fond, tu vois, genre, vas-y, envoie le pâté. Et en fait, il m'a fait cette version et je la trouve géniale. Du coup, maintenant, je la chante sur scène. Donc, okay. je vais vous la
mais
vous
donc l'interpréter. Elle est pas publiée.
Non. Mmh. T'as beaucoup de d'inédits aujourd'hui.
La nuit des divas, s'il vous plaît.
Hey, wa. Ok. Si on t'avait dit que j'allais t'aimer comme ça, tu les aurais pas cru, dis-moi. S'ils avaient su que j'écrirais sur toi, ils se seraient tous tus, crois-moi. Il y a le ciel qui bouge dans mon cœur, c'est comme la mer, j'adore. J'aime nos jeux encore et encore. Il te fallait un slow, on est d'accord. Si on m'avait dit que tu m'aimerais si fort, je les aurais giflés, voilà. Si on m'avait dit qu'un jour tu pleurerais, jette dans la mer quand on est tous les deux là. Est-ce que tu regrettes la terre? Est-ce que tu veux être à moi? Si je te dis que l'été c'est tous les jours avec toi, que je me chauffe à ton corps quand le ciel est bien trop bas. M'offre ton automne au reflet bleu lilas. Le réveil sonne et tu es toujours là. Il y a le ciel qui bouge dans mon cœur, c'est comme merci Eddie Ben Salem à la production de cette merveille.
Non, mais bravo. Mais s'il vous plaît, allez m'écouter ça. Allez, mais bon, il n'y a pas la version rail qui est publiée. Donc, non, vous allez juste écouter le podcast en boucle. Ça nous fera des streams. Merci. Mais sinon, allez écouter la version originale de L'été par Sarah Maison. Merveilleux morceau. Pour moi, banger de l'été, en fait. C'est le premier son que j'ai mis dans ma playlist d'été de cette année.
Ouais, bah écoute, merci. Voilà. Quand nous l'avons envoyé, les gens ont dit oui, ce n'est pas la ligne éditoriale.
La ligne éditoriale.
Je pense parce que je dis voilà et j'ai là-bas dedans. Je pense qu'il y a un truc en mode wouh! Il y a une étoffe. Non, je sais pas. Non, je pense que les gens n'ont pas compris le second degré, premier degré, parce qu'en fait, moi, il ne s'agit pas d'une blague, mais en même temps, tu vois, justement, ouais. On en parlait, c'est ce que c'est pas kitsch. Pour moi, c'est pas kitsch, en fait.
Non.
Et il y a des gens qui trouvent que ce que je fais, c'est kitsch. Bon, bah, c'est pas grave, ça prendra le temps. Ça prendra. Et justement, par rapport aux paroles de cette chanson-là, moi, ce qui m'a amusé, c'est que j'avais constaté que souvent, dans des chansons, par exemple, de Aya Nakamura, ou des trucs, tu vois, genre hyper un peu romantique été,
ouais.
C'est souvent un peu mystérieux, en mode, ouais, on connaît pas l'histoire, mais on te dit, ouais, t'as fait ça avec machin, j'ai pas apprécié et tout. Et moi, je me suis dit, alors attends, on va faire un truc, tu vois, genre, comment faire une sorte de chanson où t'as pas les clés. Et donc, ouais. Si on t'avait dit, tu l'aurais fait quand même, fais quoi? On sait pas, tu vois. Et du coup, c'est là que réside l'humour pour moi. C'est genre, bah en fait, tu débarques dans une histoire un petit peu à tiroir, un peu humoristique, sans, mais en même temps hyper genre premier degré, tu vois. Et voilà, donc ça m'amuse et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette chanson.
Ça marche, dans tous les cas, ça marche sur le plan des paroles. À nouveau, c'est le truc de. C'est pas forcément hyper explicite et expliqué de A à Z, schématique, mais c'est un ressenti.
Oh ouais, je pose ça là, puis après, vous en faites ce que vous voulez. C'est ça que j'aime bien, tu vois.
J'adore. Et. Quand même un truc vraiment très couche sur couche, c'est-à-dire qu'on entend plein de choses différentes. Donc on entend le rail, on entend les violons dramatiques, on entend la poésie française, donc que disait Léo Ferret. Et par exemple, sur le plan de la chanson française, est-ce qu'il y a d'autres artistes qui ont pu te marquer, que tu sens qui se retranscrivent?
Ouais, mais clairement Brigitte Fontaine par exemple, ouais. Notamment Brigitte Fontaine et Areski, où il y a une liberté aussi de poésie et de folie qui est vraiment qui m'a beaucoup inspirée. Même Françoise Hardy dans son côté très justement des histoires dramatiques, tu vois, c'est toujours il y a beaucoup d'histoires tristes. Et moi en fait je dis, mais j'adore en fait. c'est pas parce que c'est triste que c'est que ça te fout le cafard. Moi au contraire ça me faisait du bien. Donc ouais, dans cette chanson française là, plutôt ces personnes là. Après
dans le groove un peu dans le fun. Tu vois, on a évoqué le Mosrienne, mais on sent d'autres choses tout de même.
Mais ça, c'est le côté plus rock progressif, justement. Okay. Par exemple, des groupes comme Soft Machine que j'aime beaucoup. En fait, c'est les disques que j'ai découverts de mon papa, tu vois. Frank Zappa, les Mothers of Invention, des trucs justement où il y a toujours une note d'humour et on utilise la musique, pas pour prendre les gens pour des débiles, mais justement pour utiliser la musique en elle-même comme message. Et donc, ouais, plutôt ces trucs-là. Niveau groove. Après, j'ai pas écouté beaucoup de funk, hein, mais je pense que ouais, c'est ce côté rock prog en fait, où c'est beaucoup des lignes de basse extrêmement rondes, qui sont un peu répétitives, avec ces fameux orgues. Tu vois, par exemple, il y avait un morceau que je t'avais mis qui est Catherine Ribeiro et Alp, mais bon, il dure 10 minutes, donc du coup, je sais pas si
on. Bah, on peut le mettre, mais un extrait si tu veux qu'on diffuse celui-là.
On peut passer ça, et en fait, ça, par exemple, j'ai halluciné complètement quand j'ai découvert ça. Okay. Catherine Ribeiro a une voix exceptionnelle et c'est extrêmement engagé. Et tu sens qu'elle est engagée, elle est possédée même quand elle chante. Et toute l'instrumentale est pour moi, tout ce que j'aime vraiment.
Et ben, on va donc jouer Catherine Ribeiro, c'est le morceau Paix.
Ouais.
Éclaté. parfum. Qui nous a toujours donné le meilleur d'elle-même et dont chaque homme, quel qu'il soit, a besoin. Paix à nos ventres, grands réservoirs de poubelles académiques. Paix à vous, mes amis, dont la tendresse m'est une nécessité. Du feu, paix au lever du jour, à la tombée de la nuit, paix à celui qui marche sur les routes jusqu'aux horizons sans fin, paix au cheval de la bourre, paix aux âmes mal nées qui enfantent des cauchemars.
On vient donc d'écouter le morceau « Paix » de Catherine Ribeiro. Et est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'impact, je ne sais pas, que ce morceau a pu avoir sur toi, puisque c'est, enfin, je le découvre là à l'instant et c'est quand même très particulier, autant dans la production que dans les paroles.
Bah, quand j'ai découvert ça, j'ai complètement halluciné personnellement, parce que c'est tout ce que j'aime justement. Je voulais qu'on le passe parce qu'il y a ce truc, tu vois, de guitare fuzz hyper répétitive, de lignes de basse qui sont hyper répétitives. Enfin, il y a un truc hyper lancinant et avec elle qui scande des choses hyper, hyper fortes et hyper politiques. Faut savoir que là, bon, on l'entend pas trop chanter, mais elle a une voix exceptionnelle. Catherine, et je suis très 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 fan de cette femme.
C'est une chanteuse française,
ouais,
du coup,
ouais, okay. Et qui a fait des donc là elle jouait, c'était avec Alp, un groupe dans lequel elle officiait. Après elle a fait des trucs solo. Il y a d'autres morceaux extrêmement fous. Je vous recommande d'ailleurs un de mes morceaux préférés de tous les temps qui s'appelle Dans le creux de ta nuit, je crois.
Oh, c'est beau.
C'est hallucinant. Et donc du coup voilà, il y a un truc très poétique. Elle a beaucoup chanté Ferré, des classiques un petit peu aussi, et voilà, il y a eu la rumeur il y a quelques années comme quoi elle était décédée. Moi j'étais dans tous mes états comme si c'était quelqu'un que je connaissais dans la vraie vie, et en fait apparemment c'était une sombre rumeur. Donc du coup ça allait, elle va bien, mais voilà, c'est Catherine Ribeiro, si tu m'entends, je t'aime.
Voilà. Dédicace à Catherine.
Si elle écoute Radio Campus.
Dédicace à Catherine. Donc là, on sort un peu du côté instrumental qu'on a beaucoup évoqué. Sur la manière de chanter, toi, est-ce que tu as eu une formation? Qu'est-ce qui t'amène à chanter de cette manière-là? Qu'est-ce qui est atypique, tout de même?
Alors, du plus loin que je me rappelle, au collège, il y avait une chorale, et en fait, j'osais pas y aller, mais je savais que je savais chanter, alors que je n'avais jamais sorti un son. Donc, ce qui est bizarre, je savais que je chantais juste, je savais que j'avais un truc. Ouais. Mais je voyais tous ceux qui s'exprimaient, qui chantaient un peu, c'était la période Starac, du coup, pendant le cours de musique, il y avait une prof, notre prof, elle passait avec un micro sans fil, et elle mettait l'instrumental de la musique, et en fait, tout le monde se connaissait, parce que tout le monde regardait TF1, et moi j'étais interdit, ma mère elle m'a dit ouais, tu regardes pas TFN et tout. Donc du coup moi je ne connaissais pas la chanson ni la Starac, je regardais pas, et en fait le micro s'est posé devant moi et je connaissais pas, donc j'étais et à ce moment là je me suis dit mince, c'est bête, parce qu'en fait tu sais chanter, mais alors personne ne m'avait entendu chanter jusqu'alors. Ensuite au lycée, je me rappelle, il y avait un gars qui organisait un festival qui cherchait une chanteuse en fait pour son groupe à lui, et j'avais dit à mes amis, mais moi en fait je pourrais le faire. Et il y a une copine qui m'a rionné en mode, mais toi chanter mais n'importe quoi et tout ça. Et des années plus tard je lui ai dit, t'as vu, finalement je chante. Elle me dit, non mais oui, j'étais con, désolée. Non, elle
pouvait pas savoir, pas montré,
je n'avais pas montré mes skills, c'est vrai. Et donc j'ai commencé à écrire des chansons à ce moment là et je croyais que je chantais mais trop bien, quoi. Et je suis retombée sur des enregistrements, et en fait, c'est fou. C'était vraiment une petite voix.
C'était emprunté.
Ah, ben oui, ben c'est ça.
C'est bien,
oui,
c'est
ben
bien.
En fait, je pense que le talent, c'est vraiment de croire en soi épisodiquement à plein de petits moments, en fait, des petits épisodes. Et donc, du coup, j'ai commencé plus sérieusement à faire de la musique à 19 ans, quand j'étais au Beaux-Arts, à chanter la folk, à chanter ma musique dans les bars, etc. Et en fait, c'était hyper formateur. Et je refusais de prendre des cours de chant, parce que pour moi, prendre des cours de chant, ça voulait dire chanter comme à la Starac, c'est-à-dire extrêmement emprunté avec ne cherche pas plus loin, tu vois, des trucs un peu comme ça, nanana, et tout. Et je me suis dit, non, il faut pas que je perde mon essence et tout. Alors, ouais, mon essence de l'époque, c'était très peu de technique, mais bon, il y avait un terrain.
Le côté un peu à l'arrache.
Voilà, et puis je sais pas, j'étais confiante, donc voilà. Et c'est des années, quand je suis arrivée, j'ai été diplômée, donc j'ai eu mon master, quand je suis arrivée à Paris, j'ai une amie qui m'a dit, ah, je connais un prof de chant qui est super et tout. Et je lui ai dit, bon, bah, vas-y, je vais y aller, tant pis si je chante comme à la Starac, ça peut peut-être m'aider, quoi. Et en fait, c'était la rencontre vraiment incroyable avec un monsieur qui s'appelle Jean-Jacques Lala, qui est un mec extraordinaire, qui est à la base chanteur d'opéra, mais qui a une approche très holistique de la voix, et que c'est vraiment du cas par cas, c'est-à-dire peu importe si tu veux faire carrière ou pas, il a un truc où il te voit et il entend ta voix et il sait comment vers où travailler pour te la faire développer. Et donc Jean-Jacques m'a vraiment, il m'a dit, c'est un truc que j'aime bien répéter, c'est qu'il m'a dit, mais t'as une Rolls mais t'as pas le permis, quoi. Donc du coup, genre, il m'a dit, c'est comme si t'avais une bagnole de fou, t'en as sous le capot mais tu la laisses au garage, donc là il faut y aller et tout. Donc ça m'a vraiment boosté. J'ai pris pendant 5 ans des cours quasiment toutes les semaines, et c'était une thérapie pour moi, parce que la voix, je le recommande à tout le monde, même si vous n'avez pas de velléité à chanter nécessairement professionnellement, ça, il y a un truc qui se passe quand on chante qui est vraiment, qui est un soin, quoi, qui fait du bien. Et donc voilà, donc j'ai pris ces cours avec Jean-Jacques, et de temps en temps j'y retourne parce que j'ai l'impression d'avoir perdu, et il me dit, mais non, tout va bien et tout. Donc voilà, c'est un peu, il vient de checker. Et donc voilà, ouais, il y a une technique que j'ai apprise qui est plus de l'ordre de la respiration, du placement. Et sans modifier ma manière de chanter, c'était pas l'idée. Et quand je lui ai dit, ouais, mais j'avais peur de chanter comme la Starac, les pauvres, je leur taille un costard, mais d'avoir un truc hyper maniéré, entre guillemets, il m'a dit, mais non, t'as une palette. Et du coup, oui, après, tu peux faire maniéré, tu peux, voilà. Et donc, ça m'a appris à positionner bien ma voix et à arrêter de forcer surtout. Parce qu'il faut savoir que mes chansons, comme je suis autodidacte, je le mets pas sur mon range, tu vois, je le mets pas sur ma tessiture ou quoi. Genre, je prends les accords, je fais mon truc, puis en fait je la chante et je me dis, bon, bah c'est aigu, mais bon, si tu l'as écrite comme ça, c'est qu'il faut que tu la chantes comme ça, quoi. Donc lui me disait,
donc tu t'adaptes plus aux instruments.
Ouais, en fait, parce que j'avais pas de moins en moins, parce que maintenant je me dis, ah, en fait, tu peux, d'accord, baisser dans ta tonalité parce que c'est trop aigu. Mais à l'époque, par exemple, une chanson comme Mouzoul, c'était extrêmement aigu et je savais quasiment pas la chanter. Et j'ai appris à la chanter avec Jean-Jacques. Donc c'est ça qui est marrant. Il me dit, non, tu l'as écrite comme ça, donc il faut que tu la saisisses comme ça. Et maintenant, je sais la chanter, ça s'est débloqué. Mais sinon, c'était en voix de tête, c'était inchantable. Okay. Pour moi, en tout cas, vu ma tessiture, mais. Donc c'est intéressant de voir aussi comment il y a un moment tu fais des chansons, puis après tu les apprends, tes propres chansons, comment tu les replaces, etc. Donc voilà, c'est ça ma formation vocale principalement.
Okay. Donc c'est beaucoup aussi c'est très personnel, et c'est aussi donc le jeu sur ce qui est malléable de la voix, en fait. C'est expérimenter avec la voix. Je trouve ça assez drôle, mais vraiment hyper intéressant comme manière de faire. Tu vois, de pas te limiter, justement.
Oui, et puis après, c'est aussi, je pense, un manque de leçons et de bases, en fait. C'est toujours quand t'es autodidacte que tu fais un peu n'importe quoi, tu fais un peu n'importe comment. Je pense que j'ai énormément de choses qui auraient pu me faciliter vraiment la tâche. C'est comme avant, je disais, oui, je joue pas au clic. Sur mon premier disque avec Eddie, on a pas mis de métronome. Bah, en fait, on était un peu fiers en disant, ouais, on est un peu badass, mais en fait, non. c'est chiant en fait. Quand maintenant je travaille au clic, et ben tu peux beaucoup plus, tout est calé, et tu peux modifier des choses. Enfin, j'ai des outils maintenant que j'avais pas avant, donc maintenant j'y ai accès, mais ça m'a pris beaucoup de temps.
Parce que tu ne pouvais pas y avoir accès, c'était une question de si c'est pas.
Non, mais c'est parce que je cherchais pas en fait. D'accord. Moi, il y a un truc où je me suis dit ouais, bof, ça apparemment. Enfin, j'aime bien. Je sais pas. Je suis un peu hors. Hors cadre, la plupart du temps, maintenant, j'essaie de me mettre dans un cadre parce que je suis une formation au studio des variétés de mix, par exemple, en ce moment. Et donc, je me rends compte que c'est trop bien de savoir. Mais en fait, j'ai toujours eu un problème avec apprendre. D'accord. Depuis que je suis enfant, je disais à ma mère, je sais et tout. En fait, je sais rien. Genre, je sais vraiment pas grand chose. Et c'est plus quand j'ai vu d'autres personnes travailler en me disant, ouais, mais tu sais, en fait, ça, on apprend ça parce que c'est pratique. J'étais, ah ouais, d'accord, ok. J'ai une perception parfois un petit peu out of the box.
Mais je trouve ça pas mal d'avoir ce côté-là, au-delà un peu de la technicité.
Ben moi ça me faisait peur.
On peut équilibrer les deux.
Ouais, ça me faisait peur. Et parce que j'ai beaucoup de personnes qui ont fait le conservatoire qui m'ont dit que ça les a vraiment épuisés et qu'ils ont perdu en fait leur joie à force d'apprendre, sauf qu'en fait
le conservatoire c'est spécial.
Oui, et puis surtout quand tu commences très tôt et que t'as pas trop envie d'y aller, je sais pas, et en fait j'ai d'autres exemples de gens qui ont une liberté d'expression hallucinante grâce à ça. Et moi j'étais un peu entre les deux à me dire ben en fait j'ai pas envie de trop apprendre parce que j'ai peur de perdre quelque chose, et au niveau du chant c'était ça, alors qu'en fait ça n'a fait que m'apporter vraiment quelque chose de positif en fait.
Okay.
Donc maintenant je me dis peut-être qu'il faudrait que j'apprenne, je sais pas, le solfège.
Mais peut-être, il y a un temps pour tout. Et est-ce qu'il y a un morceau qui illustre un peu cette évolution que tu as pu avoir vers le côté à la fois très propre à toi et le côté un peu plus technique de la voix?
Une chanson à moi ou une chanson?
Une chanson à toi.
Ok.
Que tu pourrais performer.
Bah alors là, je peux vous performer la mandoline qui serait un inédit qui est pour le coup très difficile à chanter. Donc je pense que si je vous la chante, vous aurez une idée de la technicité. Et si je la chante mal, voilà, ne m'en voulez pas.
C'est une bien trop belle histoire pour abandonner le sitar. J'ai sorti la
chanter, mais oui, j'ai eu le mérite de la faire.
Non, bravo, bravo, vraiment. C'était... Non, t'as une technique vocale qui est assez impressionnante, hein. Enfin, de mon humble point de vue, ma foi, mais... Non, c'est...
Bravo. Ok, merci, merci.
C'était magnifique. J'ai adoré le côté dans la production, l'alternance un petit peu, entre le côté très rythmé des percussions et le lancinement qui vient justement avec le violon et le sentiment à la fin... avec un peu les mélismes que tu fais, d'extase, ça vient créer l'extase. Et ça, j'ai adoré. Je trouve que ça réunit parfaitement tout ce que tu avais pu évoquer, tous les artistes de pays, de régions, de genres musicaux radicalement différents. Je trouve que ça les réunit vraiment bien. Dans ce sens-là.
C'est un morceau que j'ai travaillé avec un garçon qui s'appelle Timothée Pédron, parce que j'avais une démo extrêmement brute avec vraiment des gros samples, etc. Et on a fait ce travail-là justement d'avoir des parties couplées qui sont extrêmement rythmées et une des parties un petit peu plus oniriques, etc. Et je suis très contente de ce travail-là, donc big up Tim. Et voilà, donc c'était un inédit, hein, première fois que le monde l'entend sur les ondes.
Formidable, hein. Quelle fierté. Ouais. Et on entend un peu de Raoud, si je dis pas de bêtises, j'avais l'impression qu'il y avait un petit peu de Raoud. Et là j'étais en mode Farid, que tu évoquais.
Oui, j'ai l'aime tant. Il y a du Oud électronique en attendant d'en enregistrer du vrai ou des guitares, parce qu'en fait j'ai fait une autre version où je joue des guitares un petit peu en trémolo, c'est un peu ma passion. Et donc voilà, mais oui, ils sont subtils, mais voilà, c'est pas encore la version finale, donc voilà. Mais oui, Farid, il y a une chanson qui s'appelle Habina, que j'adore. et je me suis rendu compte sans vraiment l'avoir entendue. Avant, je pense que ma mère l'a passé beaucoup, en fait. Mais il y a des mélodies, des trucs. Je me suis dit, mais en fait, j'avais fait une chanson comme ça sans m'en rendre compte. C'était lui. Et voilà, ça, c'est un morceau qui me rend, mais dingue, vraiment.
À propos de la mandoline, il y a autre chose que tu évoques dans le cadre de la chanson française qui est plus précis. C'est la chanson réaliste. Est-ce que tu peux nous en dire plus, peut-être, en quelques mots?
Ouais, alors la chanson réaliste, c'est vraiment des histoires souvent de femmes. Donc, moi, en exemple, j'ai Damia, Fréhel, ces chanteuses-là. Qui parlaient de leur vie, c'est le début de siècle, donc c'est 1900, et donc ça roulait. Edith Piaf était aussi une digne descendante de la chanson réaliste, et je trouve ça assez beau justement de raconter des choses du quotidien et de l'amour, et etc. Et donc la mandoline, c'est une chanson qui parle de quand on quitte quelqu'un et qu'on aime toujours, et en même temps on se dit c'est une trop belle histoire pour s'en arrêter là, et c'est des choses qui arrivent à tout le monde, et voilà, j'avais envie de parler de ce sentiment-là, et voilà. Et globalement, dans ma musique, même quand c'est un petit peu codé, il y a toujours des histoires un petit peu qui peuvent être, j'espère en tout cas, qui tendent à l'universel, en fait.
Oui, je pense que vu que dès lors qu'on parle d'émotions, dès lors qu'on parle en plus de sentiments amoureux, c'est assez universel. En effet, je pense que ça peut résonner en beaucoup de personnes. Il y a quand même un pan d'inspiration dans lequel tu puises afin de construire peu à peu ton identité musicale et personnel, qui est vraiment très riche et intéressant. Vous pouvez retrouver donc tous les morceaux que Sarah a sélectionné dans la playlist qui sera jointe au podcast quand il sera disponible. Et voilà, on en est à la fin de cet épisode. Vraiment un grand merci à toi, Sarah, d'être venue, de nous avoir, d'avoir performé pour la Nuit des Divas. C'est vraiment un honneur de pouvoir finir cette saison, cette émission de cette manière. A été merveilleuse, donc bravo à toi.
Merci beaucoup, je suis honorée d'être ici avec toi.
Merci, ça me touche beaucoup. Et voilà, c'est le tout dernier épisode de la Nuit des Divas, là cette fois-ci pour de vrai, parce que c'est un épisode pour fêter les 25 ans de Radio Campus Paris, de cette formidable radio. C'est ironique, mais en même temps, pas trop. Et voilà, on a eu l'occasion donc d'avoir quelqu'un d'aussi éblouissant que Sarah Maison à nos côtés. Je vous invite à aller checker ses projets, ses clips, ses performances live. Et merci évidemment à notre équipe de la Nuit des Divas, donc avec Hello à la Réal. Petit clapement de main. Nooks au montage et au mixage. Vous pourrez écouter cette émission sur le site de radiocampusparis.org, sur Spotify, bientôt sur l'application podcast Apple Podcast. Vous pouvez aussi vous abonner à notre page Instagram La Nuit des Divas, sur laquelle je vais continuer de poster, même si L'émission se termine. Et on vous souhaite une très bonne soirée. J'espère vous retrouver bientôt, peut-être à la rentrée prochaine. Et on vous laisse donc avec...
avec Régine, une chanson qui s'appelle « Il m'a laissé deux cigarettes ».
Il m'a laissé deux cigarettes et le disque des feuilles mortes. Quelques jolies lettres fanées, 4 francs pour faire la fête. Ensuite il a fermé la porte. Après tant d'années et l'absence commence, je suis là et je veille, j'écoute ce silence. Étais-je donc si vieille? Étais-je si vilaine pour n'avoir plus d'amour? Sont-elles si anciennes mes lettres d'amour? Le temps n'est plus des madrigaux, je pleurerai une autre fois. Moi je me sens d'humeur tango et que le diable l'accompagne. Et je vais boire du champagne, seul pour une fois. La nappe blanche, ce soir il faisait beau, je tire les rideaux et puis je m'endimanche. Voilà, je me regarde, je ne suis pas de celle qui pleure des hallebardes, je me trouve belle. Je suis si bien seule dans la chambre, mais je téléphone un peu grise à ceux qui nous aimaient ensemble. Venez ce soir, on improvise. Les abonnés sont absents, naturellement. Il m'a laissé deux cigarettes et le disque des feuilles mortes. Quelques jolies lettres fanées, ensuite il a fermé la porte.